France Inter.
Aujourd'hui, sobriété en faut-il peu pour être heureux ? Raconté par
Stéphane Signoret, journaliste spécialisé dans la transition énergétique.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Je gagnais les bois parce que je voulais vivre suivant mûre réflexion, n'affronter que les actes essentiels de la vie et voir si je ne pourrais apprendre ce qu'elle avait à enseigner, non pas quand je viendrais à mourir, découvrir ce que je n'avais pas vécu. Je ne voulais pas vivre ce qui n'était pas la vie. La vie est si chère, plus que ne voulait pratiquer la résignation s'il n'était tout à fait nécessaire. Ce qu'il me fallait, c'était vivre abondamment, sucer toute la moelle de la vie, vivre assez résolument, assez en spartiate pour mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie, couper un large andin et tondre ras, acculer la vie dans un coin, la réduire à sa plus simple expression. J'appris qu'il en coûterait incroyablement peu de peine de se procurer la nourriture nécessaire, même sous cette latitude, qu'un homme peut suivre un régime aussi simple que font les animaux, tout en conservant santé et force. J'ai dîné d'une façon fort satisfaisante, satisfaisante à plusieurs points de vue, simplement d'un plat de pourpier que je cueillis dans mon champ de blé, fit bouillir et additionner de sel. Mon mobilier, dont je fabriquais moi-même une partie, consista en un lit, une table, un pupitre, trois chaises, un miroir de 3 pouces de diamètre, une paire de pincettes et une autre de chenet, une bouillotte, une marmite et une poêle à frire, une cuillère à pot, une jatte à laver, 2 couteaux et 2 fourchettes, 3 assiettes, une tasse, une cuillère, une cruche à huile, une cruche à mélasse et une lampe bronzée. Je m'entretins de la sorte grâce au seul labeur de mes mains et je m'aperçus qu'en travaillant 6 semaines environ par an, je pouvais faire face à toutes les nécessités de la vie. En un mot, je suis convaincu, et par la foi et par l'expérience, que s'entretenir ici-bas n'est point une peine, mais un passe-temps si nous voulons vivre avec simplicité et sagesse, de même que les occupations des nations plus simples sont encore les sports de celles qui sont plus artificielles. Il n'est pas nécessaire à l'homme de gagner sa vie à la sueur de son front, si toutefois il ne transpire pas plus aisément que je ne le fais. Henry David Thoreau, Walden ou La vie dans les bois, 1854.
Tout ce que tu as à savoir, c'est que...
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Et tu verras que tout est résolu lorsque l'on se passe des choses superflues. Alors tu ne t'en fais plus. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux.
Ah, j'abandonne. Espérons que ça va durer.
Bonjour Stéphane Signoret.
Bonjour Mathieu Vidard.
À l'instant, le livre de la jungle, vous qui avez publié en novembre dernier cet ouvrage intitulé « Sobriété, notre allié, dire non à la démesure » aux éditions L'Harmattan. Je lisais un court extrait de Walden d'Henry David Thoreau à l'instant. Versus Donald Trump aujourd'hui ?
Ah, c'est sûr qu'aujourd'hui, le jour de l'investiture de Donald Trump, vous me faites une sacrée surprise de m'inviter à me parler sobriété.
Oui.
C'est vrai qu'il est un peu le symbole de cette démesure actuelle. Beaucoup de techniques, beaucoup de richesses, du pouvoir par la plus vilaine des forces, en fait, finalement. Et ce qu'on peut lui proposer en face, en tout cas, je pense que tout le monde pourrait s'interroger dessus, c'est d'avoir un comportement beaucoup plus modéré, beaucoup plus sobre dans nos achats matériels, mais aussi mentalement. Il faut se préparer peut-être, si on veut affronter ce que nous promet le futur, à vivre plus simplement, comme vous l'avez dit avec Henry David Thoreau. Et son ancêtre Lucrèce à Rome disait déjà « Avoir besoin de peu, c'est ne manquer de rien ».
Ouais, on va remonter très loin, puisque dès l'Antiquité, hein, vous le dites, on a parlé de tempérance, hein, plutôt que de sobriété d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'au moment où Trump revient à la Maison-Blanche, vous pensez vraiment que la sobriété a une chance de se poser en contrepoids face à la démesure, à l'ultralibéralisme et à cette croyance finalement à un monde... voué à la richesse, quoi.
C'est sûr que c'est une bataille qui paraît inégale. Mais je pense que c'est une bataille qui vaut vraiment le coup d'être menée. La plupart des, on en reparlera tout à l'heure, des critiques du monde techno-industriel qu'on a vu apparaître au XXe siècle ont montré qu'il y a une sorte de système oppressif qui se met en place. Et voilà, aujourd'hui, il n'a cessé d'augmenter. On en a la preuve avec Donald Trump. Et je pense qu'on doit mettre en contrepoids une autre façon de vivre. Alors, ce n'est pas forcément tout le monde dans sa cabane comme Walden avait fait, Thoreau avait fait avec Walden aux États-Unis. Mais il y a vraiment besoin que dans chacune de nos actions quotidiennes, comme le dit le GIEC aussi, d'ailleurs, on y reviendra.
On réinterroge
sans arrêt nos besoins, nos façons de faire, nos façons de consommer.
À quel moment, d'ailleurs, ce thème de sobriété est entré dans le débat public en France? Parce que c'est ultra récent, hein, finalement.
Alors, il y a deux temps, je dirais, on y reviendra peut-être aussi. Début 2000, il y a plein de mouvements qui sont mis en place, notamment autour de la sobriété énergétique. On a eu à la fois le Covid, qui malheureusement nous a tous mis face à une sobriété contrainte très très forte. Mais on a vu qu'à ce moment-là, les gens du coup avaient repris conscience que ce qui avait de la valeur, hein, c'est quand même ça la question, qu'est-ce qui a de la valeur? C'est d'être avec ses proches, d'avoir juste ce qu'il faut au minimum pour vivre, et qu'on n'est pas obligé sans arrêt de partir dans tous les sens.
Au bout d'un moment, tout le monde en a eu ras-le-bol quand même.
Oui, mais parce
c'était
que
dans un contexte de quarantaine, parce que tout le monde avait envie de sortir de chez soi. Donc
bien sûr, le contexte n'était pas du tout adapté. Mais en tout cas, il a montré que c'était quand même presque la bonne échelle qu'il fallait pour combattre le changement climatique. Enfin, en tout cas, en termes de résultats, hein, pas de façon de faire, bien sûr. Ouais. Et puis, on a eu surtout la crise énergétique de 2022, hein, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a tendu l'approvisionnement en énergie. Et là, tout d'un coup, le gouvernement d'Elisabeth Borne, à l'époque, sort un plan sobriété. Hein. Pourtant, quelques mois auparavant, on disait encore qu'il ne fallait pas de mouvement Amish. Hein. Les gens qui parlaient de sobriété étaient comparés à des mouvements Amish. Et là, tout d'un coup, il a bien fallu faire face à la contrainte énergétique et mettre en place des mesures.
Ce que vous rappelez, c'est que ça fait plus de 50 ans avec le rapport Meadows, hein, en 72, sur les limites de la croissance, que la sobriété est redevenue au centre du jeu, comme précisément une réponse au respect des limites naturelles de la Terre.
Exactement, je pense que c'est venu par l'écologie politique, mais le sous-jacent, c'est que derrière, c'est pour le bien-être des gens. Il y a vraiment cette liaison très forte entre contraintes environnementales et justice sociale. Et du coup, la sobriété, ça devient un enjeu politique. C'est pas uniquement un enjeu de moralité, de bien se comporter. Alors bien sûr, ça passera par cela. Mais derrière, on a besoin de mesures politiques vraiment adaptées à ce nouvel enjeu.
Alors ce qui est intéressant d'ailleurs dans votre ouvrage, hein, Sobriété, notre allié à l'armatan, c'est que vous faites une grande histoire de la sobriété et vraiment un bond en arrière, puisque vous ancrez au fond ces notions-là dès l'Antiquité. Dans la philosophie et dans la vie politique?
Exactement. Alors, j'avoue que moi, j'étais un peu en manque. Je m'intéressais à ce sujet et on entendait parler toujours de quelques personnes, mais j'avais pas ce fil complet de l'histoire. Et donc, j'ai en simple citoyen, peut-être, même si je suis un peu journaliste et je suis curieux, je suis allé chercher des traces. Et effectivement, le premier point intéressant, c'est que dès l'Antiquité grecque, donc au moment où Athènes se construit avec Solon, notamment, face à une, on va dire, un peu comment dire aujourd'hui, une oligarchie qui a le pouvoir, avec une aristocratie en fait, pour mettre la démocratie en place, Solon dit non, il faut remettre le sens de la mesure dans toutes nos politiques, hein. Enfin, je traduis avec les mots d'aujourd'hui, bien sûr.
Face au comportement excessif, quoi. C'est
face au comportement excessif, face à la façon aussi dont les sphères politiques étaient découpées. Et donc, en fait, ça devient une sorte de maître mot, alors non seulement des créateurs de cette Athènes antique, mais de tous les philosophes qui, derrière, qu'on connaît tous, hein, Aristote, Platon, Épicure notamment.
Mais le maître mot, c'est plus tempérance que sobriété, quand même, hein.
Le mot grec, c'est sophrosune, qui veut dire cette idée de tempérance. Et derrière, il y a aussi l'idée de pudeur, en fait. En fait, ça veut dire vraiment que quelque part, votre façon d'être dans la vie est un peu dans la retenue. Mais bon, évidemment, l'époque de la Grèce antique n'est pas celle d'aujourd'hui, notamment le rapport à la technique. Mais quand même, on retrouve ça partout. Aristote le dit quasiment dans presque tous ses textes, où il dit que c'est vraiment une vertu essentielle. Alors nous, on le traduit par tempérance aujourd'hui. Mais il faut bien voir qu'après, ce mot tempérance a été connoté au moment du christianisme. On en reparlera si vous voulez. Et donc, en fait, derrière cette modération qui va avec les grandes vertus qui sont la justice, le courage, la prudence, il y a tout un schéma, finalement, et de pensée et politique qui se met en place, et que certains reprendront, les épicuriens, peut-être sous la forme plus de l'accès au plaisir, mais c'est pas de l'hédonisme, c'est vraiment un plaisir mesuré, et les stoïciens, qui, de leur côté, font de la raison, vraiment, la façon dont on doit construire sa vie, et de fait, la tempérance, enfin, la modération fait partie de leurs critères.
Stéphane Signoret, dans la religion chrétienne, la sobriété, justement, s'inscrit dans les vertus cardinales du christianisme, hein, c'est ce que vous rappelez aussi?
Exactement. Alors, il y a deux choses différentes peut-être à voir. Il y a eu, au début de la chrétienté, un élan monastique, quelque part. On a vu des anachorètes, hein, qui étaient un peu dans le désert. Bon, ça, voilà, ils étaient un petit peu à part. Mais après, il y a les premiers monastères qui ont été mis en place et qui se sont bâtis sur cette idée de frugalité. D'une vie, alors évidemment, bon, très ordonnée, avec des règles, etc., mais qui d'emblée voulait éviter les excès que la Rome antique avait connus. Et notamment, c'est intéressant quand on regarde cette histoire, parce qu'en fait, ce sont certains nobles romains qui ont revendu leurs terres, et qui, avec l'argent qu'ils ont récupéré, bon, on pourrait éventuellement discuter du bien fondé de cette manœuvre, mais enfin, ont créé ces monastères-là et ont tout donné à l'Église. Ouais. Donc il y avait vraiment l'idée, en fait, c'est quelque chose qui est une grande rupture, de se départir, de s'abandonner de ces richesses. Et à côté, effectivement, comme vous dites, il y a une sorte de théologie, bien sûr, qui s'est mise en place, notamment avec Saint Thomas d'Aquin.
C'est quoi ? C'est une façon de se rapprocher de Dieu, au fond, la sobriété ?
Alors je pense que la simplicité de la vie faisait qu'on pouvait consacrer plus de temps, bien sûr, au culte divin. Par contre, effectivement, il y a, à côté de ces tendances de monastère, un idéal de pauvreté qui vient à un moment donné. Alors Thomas d'Aquin lui fait une théologie, on en parlera si vous voulez, mais il y a aussi les François d'Assise, par exemple, qui a été précédé par d'autres, qui ont un peu cet idéal de pauvreté qui, effectivement, pour eux, les rapproche du Christ.
Ouais, il faut contrôler un peu les passions, quoi. Hein.
Oui, alors eux, c'est carrément l'extrême, hein, ouais. Parce qu'on n'est pas loin de l'ermite. Mais du coup, cette notion, qui était quand même un peu combattue aussi, hein, par l'Église, hein, puisque les mouvements de pauvreté ont quand même été remis à leur place, si j'ose dire. Mais Thomas d'Aquin, lui, il a vraiment créé une théologie et dans laquelle il reprend en fait les valeurs d'Aristote. Donc pareil, tempérance, justice, courage, prudence, etc. Et il l'inclut vraiment, du coup, dans la façon dont la théologie peut être pensée. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que, autant la notion était très politique chez les Grecs, hein, comme je l'expliquais, pour vraiment créer une société, peut-être pas égale, mais en tout cas qui visait cette égalité comme objectif principal, idéal, cette tempérance qu'explique Thomas d'Aquin, elle se consacre à la fois au manger, au boire, et aux attraits de la chair. Et donc, du coup, après, pendant des siècles, sobriété va être plutôt sur le manger et le boire, et tempérance, ouais, va être sur la sexualité.
Alors justement, si on franchit quelques siècles, et qu'on arrive aux Lumières en France, au XVIIIe, est-ce qu'on intègre la sobriété dans les réflexions philosophiques et politiques, comme l'ont fait les Grecs bien avant ?
Alors, c'est ça qui est passionnant. Moi, j'avoue que ça m'a beaucoup surpris. Je connaissais pas, j'ai découvert. Parce que malgré cette tendance que je viens d'expliquer sur sobriété, tempérance, manger, boire, sexualité, au moment où les Lumières, et notamment Montesquieu, mettent en place un peu la construction idéologique de ce que va être la République, Montesquieu, notamment, montre vraiment que... Alors, il dit d'ailleurs comme ça, il dit « L'amour de la démocratie, c'est l'amour de l'égalité et de la frugalité. » Et il montre qu'en fait, peut pas y avoir de démocratie, et notamment avec ce qu'il appelle l'esprit de commerce, si on laisse complètement aller dans l'excès le développement du commerce.
Alors, donc c'est liberté, égalité, frugalité, là, pour le coup.
Exactement, hein. Exactement. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant que vous disiez ça, parce qu'en 2022, quand on a beaucoup parlé de sobriété, il y avait un magazine qui avait titré « Liberté, égalité, sobriété ». Alors, voilà, je ne sais pas si on pourra changer les trois bases de la République, mais voilà, Montesquieu, il insiste beaucoup.
Donc il y a une remise en question de l'esprit du commerce aussi, c'est ce que vous racontez, hein, avec Montesquieu.
Ben, je pense qu'il part toujours de cette idée que, lui, à l'époque, c'est l'aristocratie qui maintient toutes les richesses sous sa main, en fait. Et il a envie de sortir de ce modèle, quelque part. Et pour lui, l'esprit de commerce, alors il dit exactement, c'est le ferment de la dissolution morale. Donc ça va quand même très loin. On en est loin, aujourd'hui, de critiquer à ce point-là. Mais en tout cas, il montre qu'il y a besoin de réguler ces richesses, et même finalement de les réduire au fur et à mesure qu'elles grossissent.
Stéphane Signoret, on va voir avec vous dans un instant comment la sobriété entre dans le XXe siècle, et puis les différents visages de cette sobriété aujourd'hui. Et puis nous attendons bien sûr vos messages, vos question pour notre invité sur la page de La Terre au Carré.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
Voilà, ça c'était en 2020, on l'a souvent entendu, Emmanuel Macron à l'Élysée, Stéphane Signoret, vous qui signez donc aux éditions de l'Harmattan, sobriété, notre allié, dire non à la démesure, cette intervention du président de la République, c'est une façon de complètement caricaturer et de saper tous les espoirs d'ailleurs de sobriété, non ?
En tout cas, c'est la caricature extrême, parce qu'aujourd'hui, les gens qui défendent la sobriété ne prennent pas le retour à la lampe à huile. Ils questionnent en fait juste le niveau auquel on doit mettre la technologie, nos réponses technologiques, les niveaux de richesse, pour avoir une vie décente pour tous et pour respecter les limites planétaires. Mmh. Donc clairement... Je sais pas, faut lui recommander la lecture du livre, peut-être.
Alors voilà, pour par exemple se rappeler également que avant l'ère industrielle, la grande majorité de la population, paysanne évidemment, vivait quand même dans une sobriété forcée, et qu'il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui sur la planète qui vivent encore dans une sobriété forcée. Hein.
À l'échelle mondiale, c'est clair qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de gens qui sont loin d'avoir notre niveau de confort, enfin le niveau occidental et particulièrement de la France. Mais effectivement, pendant des siècles, cette majorité paysanne a vécu avec pas grand-chose. Peut-être juste un exemple pour vous donner. On estime qu'au niveau de la Révolution française, l'apport moyen en nourriture, c'était 1800 kilocalories par jour. Aujourd'hui, on a 3800. Et l'Organisation mondiale de la santé dit qu'on pourrait se contenter on se contente largement de 2800. De 2800. Donc du coup, voilà, on n'était peut-être pas assez avant, mais on a beaucoup trop aujourd'hui, donc il faut retrouver un équilibre.
Cette révolution thermo-industrielle, si on fait encore un peu d'histoire au 19e siècle, elle marque vraiment le tournant décisif pour la sobriété. Enfin, c'est quand même un moment aussi, on va en parler de moins en moins. Hein.
C'est le virage important, le bond en fait finalement qu'on a fait dans l'humanité. Cette civilisation techno-industrielle a complètement démultiplié nos capacités de faire et surtout nos capacités de consommer. Juste un chiffre, entre 1900 et aujourd'hui, on a multiplié la population par 5, mais on a multiplié la consommation d'énergie par presque 14.
Et tout ça s'accorde peu avec l'idée de sobriété.
En tout cas, aujourd'hui, on doit questionner, peut-être que s'il faut redescendre simplement de moitié par rapport à avant, mais pas forcément revenir au niveau de la civilisation pré-industrielle. Donc clairement, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de cette rupture de la révolution industrielle, il y a tout de suite, vous avez cité donc Foucault tout à l'heure, bon, qui lui voyait les prémices en fait.
Avec Walden ou La vie dans les bois. Hein.
Exactement. Mais on a eu d'autres esprits qui ont tout de suite perçu qu'on allait, peut-être pas dans le mur, mais en tout cas, qu'il y avait ici un système oppressif qui se mettait en place, qui nous dépassait finalement, qui nous faisait finalement, nous, les objets de la technologie, et qui ont du coup essayé de proposer des alternatives qu'on peut mettre aujourd'hui dans la case sobriété.
Dans ce capitalisme naissant, évidemment. Alors ce qui est intéressant hein, vraiment dans cet ouvrage aussi, c'est que vous faites référence à plein de figures de la pensée sur cette question de la sobriété, ce qui donne d'ailleurs envie de relire ou de découvrir en tout cas beaucoup de philosophes. Simone Weil par exemple, décédée en 1943, qui a été une penseuse importante de la question.
Alors, Simone Weil, donc la philosophe, malheureusement, effectivement, décédée très jeune, elle a pensé beaucoup de choses, elle avait une sorte de, un peu de mysticisme chrétien, mais si on passe au-delà de ça, elle a aussi beaucoup critiqué donc, cette civilisation technique, industrielle qui se met en place, et elle essaye de revenir sans arrêt, très inspirée par les Grecs, je pense aussi, à ces notions de simplicité. Elle parle de nécessité, elle dit « il faut revenir aux nécessités ». Et quand elle est en Angleterre, où elle essaye de participer à la résistance de loin, elle essaye d'écrire une constitution, une nouvelle constitution pour la France, et elle parle de d'obligation, pas de droit.
Et elle identifie les besoins fondamentaux, en fait. Elle fait une sorte de liste de 14 besoins fondamentaux.
Hein. Elle revient à la fois sur les besoins fondamentaux, on va dire, physiques. Hein, donc, effectivement, se loger, se nourrir, s'habiller, etc. Mais elle dit, on a aussi des besoins de l'âme. Parce qu'elle dit, en fait, ce système techno-industriel, il nous déracine, en fait. On n'est plus avec nous-mêmes. Et pour se réenraciner, on a besoin de redonner un peu le béaba de ce dont l'âme a besoin de se nourrir. Donc, ces besoins, oui, il y en a plusieurs. Je ne les ai jamais tous en tête. Mais il y a
liberté, sécurité, égalité, enracinement.
Exactement. Hein,
tout ça, ça fait partie des besoins fondamentaux.
Et cette nécessité qui est derrière tout ça, c'est-à-dire qu'on doit d'abord répondre à nos besoins nécessaires, a besoin de passer par la sobriété, parce qu'elle dit dès lors qu'on va trop loin, on tombe dans l'idée de domination, de pouvoir, et de fait, on repart dans cette spirale infernale dans laquelle on est aujourd'hui.
D'autres figures, Stéphane Signoret, dans votre ouvrage, le philosophe Jacques Ellul. Vous citez d'ailleurs un de ses élèves, Frédéric Rognon, qui dit de lui « c'est un penseur du XXIe siècle égaré dans le XXe siècle ». Il est en avance sur son temps ?
Oui, carrément, lui et d'autres dont on va parler peut-être après. Ils ont tout de suite vu que ce système, alors lui il appelle ça le système technicien, il dit « la technique elle est ni bonne ni mauvaise ». Et nous-mêmes, si on croit qu'on va lui donner une intention bonne ou mauvaise, ça sert à rien. En fait, elle est là, elle s'impose, elle s'auto-alimente, elle s'auto-reproduit et elle nous prend à manger. Enfin, on lui sert de nourriture, en fait, nous, humains. Donc il dit, on ne peut pas l'arrêter. Une fois qu'elle est lancée, c'est comme si on ne pouvait pas l'arrêter.
Bah, sauf que lui, il a une démarche quand même individuelle là-dessus. Il refuse de recourir à certaines technologies. Donc il a quand même une envie, lui, à titre individuel, en tout cas, de stopper la machine.
Exactement. Et donc il dit, il faut qu'on se reprenne, nous, en main, enfin, en tout cas, intellectuellement, et qu'on mette en place, je vais de nouveau l'appeler sobriété. Lui, il appelle ça la non-puissance. Il dit, soit je peux, j'ai la puissance, soit je peux pas et je suis impuissant. Et entre les deux, il faut créer une troisième ligne, un peu comme le sommet d'un triangle, qui est la non-puissance. C'est-à-dire, je sais que je peux faire quelque chose et je dois réfléchir et me dire je n'ai pas à le faire. Donc, typiquement, l'exemple de la 5G que citait dans votre... Emmanuel Macron tout à l'heure. Peut-être qu'on a un stade où il faut se dire qu'on n'en a pas besoin. Ouais. On peut le faire, mais on n'est pas obligé de le mettre en place.
Il y a une éthique de la non-puissance chez Jacques Ellul. La contemplation devient pour lui d'ailleurs une forme de résistance, puisque pour s'opposer à la frénésie technicienne, il suggère justement de retrouver une sorte de liberté intérieure, une profondeur humaine par la contemplation.
C'est ce que dit Foreau aussi, que vous avez cité tout à l'heure. Finalement, l'esprit, l'âme, l'idée de reprendre racine avec le monde passe par exemple par la contemplation, comme dit Ellul. Et donc, il faut sortir de ce matérialisme, finalement. Et tous les autres vont le reprendre après. Illich, par exemple, redit un petit peu la même chose. Lui, il parle de monopole radical que les institutions, les entreprises nous rendent prisonniers, en fait. On est obligé de consommer de telle ou telle manière. Il faut retrouver par soi-même une forme d'autonomie.
Et de convivialité aussi. Hein. Il insiste là-dessus, Ivan Illich. Hein.
Exactement. Dans cette auto-limitation, en fait, on retrouve du temps pour soi, on retrouve du temps avec les autres, on peut mettre en place la convivialité. Ça veut dire, du coup, aussi accepter de ralentir. Et dans notre monde où tout va toujours très très vite, vous avez bien conscience que c'est pas évident, mais voilà, il dit c'est une forme de lucidité, et c'est aussi un renoncement courageux. Et je pense que ce mot de renoncement, aujourd'hui, on va devoir le conjuguer un peu à tous les temps.
Le vélo devient le symbole d'une technologie sobre, d'ailleurs, et accessible. Là aussi, oui, cette notion de justice sociale, quand même, derrière la sobriété.
Exactement. L'idée, on pourrait parler de la définition du GIEC, qui effectivement dit que c'est un ensemble de politiques et de mesures, du quotidien, qui limite la consommation en eau, en énergie, en matière, en sol, etc. Mais pour le bien-être de tous, et dans le respect des limites planétaires. Et je crois que bien-être de tous, c'est vraiment un point très très important. Dès lors que vous consommez moins, vous avez un peu plus pour tout le monde. Ça ne veut pas forcément dire une société égalitaire, loin de là, mais on peut quand même, vu les écarts de richesse qu'on voit aujourd'hui, essayer de les diminuer un peu pour que tout le monde se vive mieux.
C'est l'idée que reprend André Gorz, d'ailleurs, avec son analyse du productivisme comme une source d'aliénation, vous le rappelez, et la sobriété comme une condition de justice sociale.
Exactement. Alors lui, il parle de normes du suffisant. Donc on retrouve toujours les mêmes mots, que ce soit modération, suffisance, sobriété, frugalité, bon, on a cité tempérance tout à l'heure, et il dit vraiment qu'il faut se questionner sur le niveau de satisfaction d'un certain besoin et l'effort qu'on va fournir pour satisfaire là. Et puis, il faut aussi régler le niveau de l'effort en fonction de la satisfaction recherchée. Il dit que ça va dans les deux sens. Ouais. On questionne les besoins et l'effort pour le satisfaire. Et ça, aujourd'hui, c'est une chose qu'on ne fait pas, parce qu'on a toujours cette sorte... je reprends le terme aliénation, peut-être j'insiste trop, mais il y a toujours plus.
Avec la nécessité pour André Gorz de poser un cadre politique, et ça c'est très intéressant aussi, parce qu'on est vraiment au-delà d'une sobriété individuelle, spontanée, où il faut un cadre bien établi pour essayer d'instituer un projet collectif autour de cette idée de sobriété.
Je crois que c'est le marqueur le plus fort de ce 21e siècle. L'écologie aujourd'hui, quoi qu'on mette derrière, doit se penser de manière politique. Et vraiment, c'est ce que Gorz met en route avec ses écrits. Je pense que beaucoup des penseurs de l'écologie politique aujourd'hui s'appuient sur lui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes citoyen, donc ce que vous faites individuellement, c'est une démarche politique, quelque part, mais ça ne suffit pas. Il faut que votre ville, il faut que votre région, votre département, l'État, voire au niveau international, tout le monde mette en place ces politiques de sobriété, parce que sinon, on va avoir un univers un peu compliqué, on le voit bien.
Stéphane Sinneret, on verra justement dans un instant quels sont les différents visages de la sobriété aujourd'hui. Il y a plein d'exemples intéressants que vous critiquez d'ailleurs également en filigrane, et puis vous répondrez au message qui arrive sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Vous prendriez lequel, vous ?
Honnêtement ?
Ouais. Aucun des deux. Mais c'est à moins 70%. Franchement, pour un vendeur, vous êtes pas...
Ah non, pas du tout. Moi, je suis des vendeurs. Et je vous conseille le moins 100%.
Il y a moins 100%.
Bah oui, le vôtre.
Il est très bien. Je peux ?
N'hésitez pas, si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats, ça soulagera les ressources de la planète.
Et vos placards ?
Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Rendez-vous sur épargnonsnosressources.gouv.fr.
Stéphane Signoret, vous qui publiez Sobriété, notre allié aux éditions de l'Harmattan, cette campagne qu'on vient d'entendre de l'ADEME en 2023 a fait couler beaucoup d'encre, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. L'histoire du dévendeur, alors ça...
Oui, ça a fait grincer des dents. Bah, je pense qu'aujourd'hui, voilà, la société de consommation, voire de surconsommation, n'est pas encore tout à fait prête à entendre ces messages. Et l'ADEME a fait un bon coup avec ce dévendeur. Je pense que moi, je la soutiens entièrement. Elle devrait recommencer assez régulièrement pour que petit à petit, tous les mouvements qui existent déjà, un petit peu de sobriété, rentrent un peu plus dans le quotidien de tout le monde.
Enfin, l'ADEME qui est tellement menacée qu'elle n'a peut-être pas envie d'aller dans des campagnes qui feront encore beaucoup, beaucoup de bruit. Ça veut dire quoi d'ailleurs qu'on en discute autant ou qu'on ait même du mal d'ailleurs à en discuter? C'est qu'on a un vrai souci démocratique sur cette question?
Je pense qu'encore aujourd'hui, les esprits sont trop façonnés, si on veut. Je suis pas complotiste, hein. Mais voilà, on est abreuvé de publicité. On est sur 2-3 générations complètement mis dans ce moule de la consommation à outrance. Mmh. Et là, aujourd'hui, dire il faut peut-être stopper, il faut peut-être arriver à faire un peu moins d'esprit. Oui, exactement. Mais voilà, les gens, ils n'arrivent pas encore à se mettre dans cette logique-là. Pourtant, au quotidien. Quand vous discutez avec les gens, vous voyez bien qu'assez spontanément, parfois, ils peuvent appliquer des petites pratiques de sobriété. Mais parfois, ils ne le voient pas, en fait. D'ailleurs, la preuve, c'est quand on a fait le plan de sobriété suite à la crise énergétique qu'on évoquait tout à l'heure, les Français se sont quand même contraints à consommer un peu moins et on a économisé à peu près 10% d'énergie. Donc, quand ils veulent, ils peuvent.
Oui, enfin, sauf que c'était aussi contraint et forcé par la note qui était de plus en plus salée aussi. Hein.
C'est vrai, exactement. La facture avait beaucoup élevé. Et aujourd'hui, ça a un peu duré après. C'est vrai qu'on commence à revoir une hausse des consommations. Alors, les usages changent également, mais voilà, ça veut dire clairement qu'il faut un message politique, comme il a été porté à cette époque-là, pour que les gens puissent se mettre en œuvre.
Stéphane Signoret, plusieurs visages aujourd'hui de la sobriété. Alors, vous revenez sur l'histoire des colibris de Pierre Rabhi. Bon, ça, c'est assez connu, chantre de l'agroécologie, avec son mouvement qui basait l'idée de la sobriété heureuse sur les petits gestes, hein, justement, non ?
Oui, sur les petits gestes, mais il y a quand même un sous-jacent quand on voit ce que font les colibris, où petit à petit, se mettre en réseau, échanger des bonnes pratiques et faire des choses qui peuvent se faire qu'à l'échelle d'un collectif. Si vous mettez en place quelque chose pour réparer des outils, c'est rare que vous le fassiez tout seul. Vous êtes à plusieurs, ceux qui savent faire réparer telle ou telle chose se mettent ensemble. Donc je pense qu'en fait, tous les éco-gestes, ils ont du sens, bien sûr, mais ils ne sont pas suffisants. Et d'emblée, on voit apparaître tous ces... tous ces mouvements un peu plus collectifs. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses individuelles, comme le minimalisme.
Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Parce que c'est intéressant, l'idée du minimalisme. C'est un mouvement qu'on ne connaît pas forcément très bien encore.
Oui, alors pourtant, il a eu beaucoup, beaucoup de succès, alors, notamment avec des auteurs japonais, comme Marie Kondo, qui apprennent
à ranger les placards.
À ranger chez soi, et à déranger. Le suffixe « dé » est pas mal, le préfixe, « dé » est pas mal. À déranger dans le sens où vous devez, finalement, vous dire « ça, j'en ai plus besoin », ou « ça fait un an que je ne l'ai pas apporté ». Donc, il y a une sorte un peu de simplification de la vie au quotidien. Et elle a eu beaucoup, beaucoup de succès. Hein.
Oui. Elle est même revenue sur ses propres actions, d'ailleurs. Hein. Elle a même dit qu'avec des enfants, c'était impossible.
Exactement.
Sur Marie
Kondo. Hein. Mais ça montre en tout cas qu'on peut avoir des tendances comme ça relativement à la mode. Hein. Ouais. Alors, on voit les tiny house, les petites maisons. Il y a un peu des choses autour de la slow life. On voit les low-tech aussi arriver. Alors, c'est moins une mode grand public que le minimalisme, peut-être. Mais quand même, du coup, ça implique des écoles d'ingénieurs, parfois.
Donc ça crée des petites communautés, finalement ?
Oui, moi je pense qu'on les voit assez de manière éparse aujourd'hui, ces petites communautés par-ci, par-là, qui viennent pas avec les mêmes mots, qui viennent pas avec les mêmes pratiques, mais enfin tout ça se ressemble quand même. Et je pense qu'on commence à voir aujourd'hui des regroupements petit à petit. Il y a certains réseaux, par exemple dans les collectivités, qui sont en train de se créer justement pour fédérer ces mouvements-là et aider les gens à partager leurs pratiques de sobriété. On voit de plus en plus, d'abord il y a beaucoup de travaux académiques qui se font maintenant sur le sujet, de plus en plus. Je crois que vous aviez reçu il y a quelque temps Yamina Seb, qui elle-même a monté un observatoire. Donc voilà, on voit qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. La question, c'est comment on peut la transformer pour que ça soit plus un mouvement de masse.
D'où l'intérêt d'embarquer le monde des entreprises, par exemple, dans cette idée-là, pour essayer d'aller au-delà des petits gestes.
Vous vous rendez compte que c'est bien sûr pas le plus facile. Et d'un autre côté, là aussi, on voit beaucoup d'entreprises qui sont déjà embarquées dans des démarches de responsabilité sociétale et environnementale. Mmh. Alors, par la réglementation, mais elles ont bien compris aussi que parfois, elles avaient à y gagner. Il y a des gens qui parlent d'innovation frugale, on voit des modèles de perma-entreprise. Donc des gens qui ont bien compris qu'ils devaient mettre au cœur de leur système, leur stratégie, en fait, de ne pas abîmer la Terre, de ne pas abîmer les humains, et finalement de minimiser leur appel à des ressources. Et si déjà ils arrivent à aller dans ce sens-là, on aura fait un très gros progrès.
Stéphane Signoret, je rappelle que vous êtes engagé dans l'association Négawatt. Qu'est-ce que c'est que votre idée justement au niveau énergétique de la sobriété ? Qu'est-ce que vous proposez comme piste ?
Alors c'est vrai que je milite dans cette association depuis un petit moment, et ce qu'elle soutient, c'est qu'en fait, ce qu'on a dit un petit peu hein, depuis le début, c'est qu'il faut d'abord interroger les besoins. Alors là, typiquement les besoins en énergie et puis en matière, avant de se dire comment on va les satisfaire. Hein. On évoquait tout à l'heure déjà Jacques Ellul qui parlait de ça. Donc en fait, l'idée c'est simplement de dire est-ce qu'on ne peut pas réduire un petit peu les besoins ? Donc est-ce que j'ai besoin vraiment d'une voiture si grosse ? Peut-être pas. Est-ce que j'ai besoin de faire autant de kilomètres ? Peut-être pas. Est-ce que j'ai besoin d'un logement aussi grand ? Peut-être pas. Et en fait, pas forcément en réduisant par deux tout d'un coup ce qu'on va faire, mais fixez-vous par exemple comme objectif, vous regardez vos kilomètres si vous avez une voiture cette année, enfin en 2024 par exemple, et vous dites en 2025 j'en fais 5% de moins. Alors ça vous fera peut-être, je sais pas, 100 km de moins, 200 km de moins. Donc peut-être ça veut dire réduire quelques trajets, quelques vacances, ou parfois remplacer par le vélo. Vous évoquiez le vélo tout à l'heure. Donc vraiment, ce qui est le sous-jacent de ce scénario négawatt, c'est vraiment de réinterroger les besoins, ensuite d'appliquer de l'efficacité, ensuite d'appliquer des renouvelables. Et on arrive au bout d'un moment, finalement, à baisser la consommation, si on fait ça tous les ans, pendant plusieurs années.
Mais ça s'adresse à tout le monde, pas seulement aux particuliers, justement, parce que sinon, on retombe finalement dans les petits gestes.
Oui, bien sûr. On a toujours les deux, à la fois moi, à titre individuel, et puis toutes les entreprises, les collectivités, l'État doivent se poser les mêmes questions. Quitte à réglementer des fois s'il faut.
C'est ça, c'est ce que je vais vous demander. Est-ce que ça nécessite quand même une régulation ? Quelque chose qui soit plus dans le domaine de la contrainte, ça ?
Au stade où on en est aujourd'hui, où on a un peu tout laissé faire sans se poser de questions depuis longtemps, oui, je pense qu'il faudra passer par la réglementation, mais ce n'est pas forcément mauvais. On l'a fait par exemple au niveau européen pour avoir des matériels électroniques ou électriques comme les frigos qui consomment moins. Aujourd'hui, tout le monde est habitué à regarder l'étiquette quand il achète son frigo.
Finalement, vous êtes un peu comme les dévendeurs aussi. C'est-à-dire que votre idée, c'est que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc le meilleur produit, c'est celui qu'on n'achète pas.
Si on peut s'en passer, pourquoi pas ? Je pense que c'est l'objectif. Si vous, dans votre vie, vous arrivez à faire autre chose que simplement être satisfait en accumulant plein d'objets, je pense que vous aurez gagné quelque chose de précieux.
Stéphane, tiens, on voit qu'on en est vraiment qu'au début, hein, parce que la fin de la démesure, on n'y est pas du tout. Elle va même peut-être prendre encore plus de force avec l'arrivée de le retour de Donald Trump. Pourtant, il faudra avoir un vrai débat démocratique sur la question. Il y a plein de sujets qui sont intéressants. Vous citez par exemple le sujet de la publicité, qui est à réinterroger aussi réellement aujourd'hui.
Oui, il y a un chercheur notamment spécialiste sur ces questions-là qui s'appelle Bruno Villalba, qui a beaucoup travaillé sur cette notion politique de la sobriété. Et voilà, si on veut mettre une économie du contentement en place, on a besoin de ce débat social pour retrouver un peu cet adage de la Grèce antique qui était ni trop, ni trop peu. Vraiment trouver le bon entre deux.
Allez, on passe aux questions. David demande, est-ce qu'on peut justement imaginer mettre en place une politique de sobriété, sachant que la politique est dictée par les industriels ? Ça se discute, mais en tout cas,
oui,
c'est un point de vue.
Ça se discute. La force du personnel politique, c'est justement de se détacher des lobbies divers et variés. Normalement, voilà. Donc, effectivement, il va falloir lutter contre ces lobbies, mais ça c'est l'objet de ce que le peuple peut porter aussi, chacun auprès de son élu, pour essayer de demander quelque chose qui va contre ce qui lui semble être dangereux pour l'avenir.
Isabelle dit, il sera à mon avis important pour encourager la sobriété de cesser de suivre l'inflation avec une augmentation des salaires en pourcentage, une approche qui consiste à donner plus à ceux qui ont le plus et polluent le plus, mais faire une augmentation pour tous de la même valeur. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, en tout cas sur les richesses, ce qu'il faut effectivement complètement questionner, c'est le niveau des écarts, des inégalités. Je ne suis pas moi le hyper spécialiste, mais on a Thomas Piketty, plein d'autres qui ont travaillé sur ces questions-là. Et une solution qu'on pourrait par exemple mettre en place, c'est on parle toujours réglementation, si on a un salaire minimum, on pourrait très bien inventer un salaire maximum. Et dans ce cas-là, on régule finalement assez simplement les écarts de richesse. Bon, il y a d'autres solutions, hein, j'en parle dans le bouquin. Et donc c'est vrai que les pourcentages, c'est parfois trompeur.
Ça promet de belles discussions et de beaux débats, ça dit dans ce genre d'idées. Jean-Charles dit, comment convaincre précisément les riches et les personnes aisées de modifier leur mode de vie ? Les 10% les plus riches génèrent 49% des émissions de gaz à effet de serre. Comment fait-on ?
Ça, c'est la question la plus compliquée. Vous l'aviez un peu posée à Cédric Villani il n'y a pas longtemps. C'est là qu'on n'est plus le mal à l'aise, souvent. Moi, je pense que Pour les gens qui sont convaincus de la sobriété, il faut agir. Il faut agir et continuer d'agir. Parce qu'au bout d'un moment, la nécessité naturelle, finalement, la façon dont la nature elle-même agit, va nous pousser vers là. Ou alors, on va arriver à des catastrophes où ça sera de la sobriété, pour le coup, vraiment contrainte, comme lors du Covid.
Marjorie dit, je crois que la sobriété volontaire est difficile dans un monde de pléthore. Il suffit de regarder autour de soi pour comprendre qu'il n'y aura pas de mouvement général vers la sobriété volontaire. Donc, à quoi bon ?
Wow. Courage, continuez, il faut y croire. Moi, je pense qu'il faut continuer de dire. Si on, vous voyez, parce que toute l'histoire que j'ai faite, là, pendant plus de 2500 ans, c'est que sans arrêt, cette notion, elle vient. Et sans arrêt, elle est bien sûr battue en brèche.
Et critiquée.
Par l'envie de domination, de pouvoir, etc. Mais parce qu'elle est là, je pense qu'elle peut continuer à vivre, il faut la porter.
Bon, mais c'est ce que vous donnez comme bille, en tout cas dans ce livre, Sobriété, notre allié, dire non à la démesure. C'est aux éditions de l'Harmattan. Merci beaucoup, Stéphane Signoret, d'être venu nous en parler aujourd'hui à la Terre au Carré.
Merci de votre invitation.
À bientôt.